Radio Okapi. Le journal présenté par Grace Hamzati Massandi.
À la une de l'actualité, lutte contre l'épidémie de la variole des singes en Afrique. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR enquête de plus de 20 millions de dollars pour la prévention en faveur des réfugiés dans les pays touchés, parmi lesquels la RDC. Que faire pour que les minerais exploités dans l'est du pays contribuent au développement local? C'est en tout cas la question au centre du forum minier tenu hier à Bukavu au sud Kivu et qui a réuni les acteurs du secteur minier. Des précisions dans ce journal. La MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles, notamment des véhicules et appareils électroménagers dans quelques villes. C'est demain que tous les intéressés sont appelés à se présenter pour la souscription. Nous parlons des modalités de cette opération avec notre invité Joseph Moussoala, agent d'approvisionnement à la mission onusienne. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR a besoin de 21,4 millions de dollars jusqu'à la fin de l'année pour intensifier d'urgence les efforts de réponse et de prévention en faveur des réfugiés dans les pays touchés par l'épidémie de la variole des singes ou Mpox dont la RDC. L'appel lancé hier vise à soutenir près de 10 millions de personnes déplacées des forces et des communautés hôtes dans 35 pays d'Afrique. DDT avec Gisèle Cage.
Au moins 88 cas de Mpox ont été signalés parmi les réfugiés en Afrique, dont 68 en RDC, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de cas dans le monde. Des cas ont également été signalés parmi des réfugiés de la République du Congo et du Rwanda. Cette nouvelle épidémie des varioles met en danger les populations les plus vulnérables, notamment de nombreux réfugiés et communautés déplacées de force qui vivent dans des conditions difficiles, déclare dans un communiqué Alain Maïna, responsable de la santé publique au ACR. L'Afrique abrite plus d'un tiers des personnes déplacées de force dans le monde. Nombre d'entre elles résident dans des pays confrontés à la transmission du Mpox et se trouvent dans des situations extrêmement vulnérables, aggravées par des conflits prolongés, un manque chronique de financement humanitaire et des catastrophes multiples, poursuit le ACR. Le ACR appelle donc la communauté internationale à accroître son soutien financier afin de stimuler les efforts de préparation et de réponse et de réduire l'exposition à la maladie des personnes les plus exposées. À ce jour, plus de 20 000 cas suspects ont été signalés en 2024 en Afrique.
Nous le disions dans les titres, toutes les parties prenantes du secteur minier se réunissent à Bukavu pour mener un plaidoyer auprès des autorités afin que le minerai exploité dans l'ancien Kivu contribue au développement local. C'est l'objectif du forum minier qui s'est tenu hier au chef-lieu du Sud Kivu, organisé par l'ICEBEL Justice pour tous. À qui profitent réellement les minerais de la partie est du pays? Cette question était au centre du débat. Jean Kassami nous en parle.
Les acteurs des entités territoriales décentralisées du Nord et Sud Kivu présents au forum de Bukavu soutiennent que le gros de ressources minières de l'ex-Kivu profite plus aux firmes étrangères dont la plupart opèrent dans l'illégalité avec la complicité de certains décideurs politiques du pays. Le président de la société civile Noyau de Wamuzimu, Miaka Félicier, s'indigne de la magouille qui se passe dans leur territoire de Mwenga.
Presque tous les gisements miniers de la province du Sud Kivu se trouveraient au niveau de notre entité, mais le développement est loin d'être vu par cette communauté. Là, il y a une multitude de sociétés minières qui travaillent là-bas, sans cahier de charges, sans quoi que ce soit. L'administration des mines vraiment ne fait pas bien son travail.
Pour freiner cette gabegie minière, toutes les parties prenantes conviennent de mener un plaidoyer pour faire en sorte que le produit minier contribue en priorité au développement des milliers de productions. Martel, le coordonnateur de l'ONG Justice pour tous, Loja Armand.
Nous avons insisté sur la présence des acteurs des ZTD parce que c'est au niveau des ZTD que la redevance devrait en principe contribuer largement au développement local.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Direction la province du Haut-Katanga, le secteur Moero dans les territoires de Pweto est confronté aux difficultés d'évacuation des produits agricoles. Les routes des dessertes agricoles et celles qui mènent vers Kasomeno pour atteindre la ville de Lubumbashi sont dans un état de dégradation avancé. L'agronome principal du secteur plaide pour leur réhabilitation car certains agriculteurs se découragent et assistent impuissamment à la détérioration des fruits de leur récolte. Jean Gandou.
Les principaux groupements où la production agricole est abondante sont notamment Kilomba, Mukupa, Mulimba et Kiala. On y cultive entre autres le riz et les haricots. D'après l'agronome du secteur, la production du maïs a sensiblement baissé car jugée non rentable. Un seau de 2,5 kg de maïs revient à 3 000 voire 3 500 francs congolais, pendant que la même mesure de riz coûte 6 000 voire 6 500 francs congolais. Et le principal centre de consommation est la ville de Lubumbashi. Cependant, les routes des dessertes agricoles sont en dégradation avancée. Conséquence, il y a des produits agricoles qui pourrissent. Certains agriculteurs qui perdent les fruits de leur labeur se découragent, nous renseigne l'agronome du secteur. Voilà pourquoi ils lancent un SOS aux autorités provinciales. Faustin Kabondo.
La production est bonne, mais ça décourage quand même du fait que pour cultiver beaucoup, mais pour évacuer, c'est tout un problème. La route numéro 5, à partir de Kasumeno jusqu'à Pueto, si le gouvernement ne se penche pas à ce point-là, pendant la pluie, il n'y aura pas de communication. Vous risquerez de faire des semaines ou un mois pour arriver à Lubumbashi.
Et pour contourner ces difficultés, il y en a qui recourent aux barges pour atteindre Kasenga et dès là, ils font transporter leurs produits dans les véhicules jusqu'à Lubumbashi, une tâche qui n'est pas du tout aisée, souligne Faustin Kabondo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre aspect d'actualité, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, à peine 30% des écoles publiques sont opérationnelles dans la région de Ringeti et Kainama. Selon le chef de la Division nationale des contrôles, de la préparation et de la paix des enseignants d'INACOP dans cette région, seuls les élèves finalistes des écoles primaires vont à l'école, alors que les enseignants, membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO, ont décidé de durcir la grève. Pour Bienfait Baraka, cette situation impactera négativement l'année scolaire en cours. Il est joint par Marc Marofimbo.
Nous avons fait un état des lieux. On dira toute la semaine là, les gens de Kainama étaient en train d'enseigner. Mais à partir de lundi, eux aussi viennent d'emboîter les pas. Alors, sur place à Eringeti, il y a certaines écoles qui fonctionnent, notamment dans les écoles publiques. Les chefs d'établissement et certains enseignants occupent les élèves de sixième année, notamment les finalistes. Mais les écoles comme Institut Maimoya, Wangachu et autres, les activités marchent normalement dans certaines écoles. C'est environ 30%. Et cela impacte négativement. Alors, nous préconisons une rencontre la semaine prochaine. Ce que le gouvernement a promis de virer, c'est déjà disponible. La banque a commencé à virer les montants à certains enseignants. Donc, nous, à notre niveau, nous n'avons plus de soucis. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la sensibilisation. Vous savez, cette grève n'a pas de place. Les enseignants devront attendre la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Parce que cette année, le gouvernement travaille avec le budget de 2024. Ils devront attendre la session budgétaire de 2025, d'où le gouvernement, les députés, vont voter le budget de la session 2025.
Dans le même chapitre, les élèves déplacés du niveau primaire ainsi que leurs parents attendent impatiemment la reprise des cours. À la suite de la grève sèche observée par les enseignants, plusieurs enfants se retrouvent dans les rues de Goma au nord Kivu à Kemande et d'autres ne font rien dans le site. Le président de ces sites indique que la semaine dernière, ils ont enregistré 5 cas d'enfants déplacés perdus dans la ville. Parmi eux, 4 ont été retrouvés, le dernier est toujours recherché. Les responsables du site invitent le gouvernement à vite régler la question de la grève des enseignants pour que tous ces enfants soient encadrés. C'est un reportage de Rosalie Zawadi.
Les petits Akilima Liserugendo, Dieu merci, étaient en quatrième année primaire l'année dernière. Impatients de commencer la cinquième année, il va visiter de temps en temps l'école primaire construite en bâche dans l'enclos des pères de Don Bosco pour les enfants déplacés, en espérant voir la reprise des cours.
Hier encore, nous sommes allés à l'école. Les enseignants sont toujours en grève. Le gouvernement a promis de majorer leur salaire. Cela n'a pas été fait. Alors je passe mes journées dans le camp. J'aide les parents puis de l'eau. Je fais aussi la lessive.
Son ami Daniel Amoury veut voir la reprise des cours car chaque année passée à l'école le rapproche de son rêve de devenir électricien.
Je voudrais que la reprise des cours soit effective pour que je puisse bien étudier enfin de trouver un travail. Je voudrais être électricien pour gagner de l'argent.
Même si il n'a pas encore trouvé les fournitures scolaires pour ses 3 enfants, Madame Ouizera Florence veut les voir à l'école et non dans la rue.
En tout cas, j'aime voir les enfants reprendre le chemin de l'école, car aujourd'hui, ils passent leur journée à circuler partout. Ils ne se lavent même plus. On peut même enregistrer des accidents de circulation.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nous restons en Nord Kivu pour parler de ce drame qui a provoqué une vive émotion suivie d'une manifestation de colère des élèves toute la matinée d'hier à Kanyaruchinya, dans les territoires de Niragongo. Téné, un élève de 7e année, a été tué et 2 autres blessés par balle. Selon diverses sources sécuritaires locales, 2 présumés combattants Wazalendo s'est disputés à côté de l'Institut Mugara, où les victimes étaient en plein cours. Ils ont ouvert le feu, tuant sur le coup un élève et blessant d'autres. Ce drame a mis fin aux activités scolaires de la journée dans cette partie de Nyiragongo. Pour la société civile, la circulation illégale d'armes et des présumés Wazalendo devient un sérieux problème de sécurité dans cette zone. Puisque nous avons déjà touché le pont sur la sécurité, sachez que des violents combats ont été signalés ce mercredi à Kikuvo et Ngekeni entre des combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Ce sont des villages de la chefferie de Bamati dans la partie sud-est du territoire des Lubero. Nous sommes toujours au nord Kivu. Aucun bilan de ces combats n'est disponible. Toutefois, un acteur de la société civile locale parle d'un déplacement massif de la population vers Kamandjit, village encore sous contrôle de Wazalendo du groupe FPP-AP de Kabidon. Par ailleurs, de nouveaux affrontements ont aussi opposé hier même les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans les environs de Kichanga. C'est notamment dans les groupements Bukombo et Bishusha, territoire de Rutshuru, une situation qui a créé la panique dans la cité de Kichanga. C'est ce que nous dit Bernard Denyangi.
C'est autour du pont Sisa et dans le village Kizimba, à 7 km de Kichanga, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée ce mercredi. C'est dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru. Selon certaines sources locales, ces affrontements opposant les rebelles du M23 aux combattants VDP Wazalendo se sont étendus du coup à d'autres villages du groupement voisin de Bishusha, toujours dans le Rutshuru. D'autres sources ajoutent qu'un autre groupe de jeunes Wazalendo aurait fait un autre assaut pendant les mêmes heures matinales au centre de Kichanga. Les habitants du milieu auraient ainsi passé la matinée enfermés dans leur maison, indiquent ces sources. Rappelons que ceci intervient après au moins 3 jours de combat entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux dans plusieurs agglomérations du groupement Bachali Kaembe en territoire de Masisi.
Merci à vous, Bernardin Nyangi. Même la guerre a des limites. Même dans la guerre, il faut préserver l'humanité. C'est la déclaration de François Moréon, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC. Il a dit hier à Kinshasa à la cérémonie des commémorations des 75 ans des conventions de Genève. À cet effet, une table ronde a été organisée par l'ambassade de la Suisse en RDC et l'université de Kinshasa. Elle a réuni des représentants du gouvernement, du corps diplomatique, des organisations internationales, de la société civile et ceux du milieu universitaire. Objectif, discuter sur les défis et les opportunités en rapport avec l'application du droit international humanitaire en RDC et identifier des mesures concrètes pour son respect. Plus d'explications avec John Chibwabwa.
Le Convention de Genève, c'est l'incarnation de l'humanité commune et c'est les textes qui permettent de régler la guerre, affirme Jasper Sarot, ambassadeur de la Suisse en RDC.
Les conventions de Genève, c'est, je pense, l'incarnation de l'humanité commune. C'est les textes qui permettent à régler la guerre, à régler des conflits, à donner accès aux humanitaires.
Pour François Moréon, chef de la délégation du CICR, cette célébration est essentielle car elle permet de rappeler que même la guerre a des limites.
Cette célébration est essentiel car c'est l'opportunité de rappeler que même la guerre a des limites, même dans la guerre il faut préserver l'humanité et c'est le sens de la mission du CICR de porter protection et assistance aux victimes des conflits armés.
De son côté, Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté des droits à l'université de Kinshasa, explique l'importance qu'est rêvée cette table ronde.
Notre pays connaît une situation de violation des droits de l'homme à divers titres. Il était important que nous, comme pays victime de ces violations, nous puissions réfléchir et voir si le droit international humanitaire est respecté dans notre pays ou pas.
Les organisateurs de cette table ronde ont tenu à rappeler que les conventions de Genève font du CICR le gardien du droit international humanitaire et l'université de Kinshasa représente un des canaux de sa diffusion.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud voit apparaître les premières fissures au sein de son gouvernement d'unité nationale. L'objet de la discorde, une loi sur l'éducation votée en mai 2024 par le Parlement et que le président Cyril Ramaphosa s'apprête à signer ce vendredi. L'Alliance démocratique des centres droits et son leader, l'actuel ministre de l'Agriculture, ont redit ce mercredi leur opposition à ce texte, ce qui menace désormais la stabilité du gouvernement.
L'invité.
La MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés, composés de véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électronique, pompes et autres conteneurs dans quelques villes. Selon Joseph Monsoala, agent d'approvisionnement à la mission onusienne, la présence physique de tous les intéressés est obligatoire ce vendredi 13 septembre, qui est le jour de la souscription. Dans cet entretien avec Jordan Blaise Shindani Kambala, il revient sur les modalités de cette opération. Suivez.
Joseph Monsoala Makambo, bonjour.
Bonjour.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a l'intention de mettre en vente aux enchères des lots d'articles divers. Pouvez-vous nous énumérer les articles en question?
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo organise ses ventes aux enchères dans différentes villes de la RDC. Il s'agit bien de Kinshasa, Beni, Goma, Bunia et un peu d'Ouvira. Et là, nous avons différents matériels. Nous avons des véhicules, nous avons des containers, nous avons des citernes, nous avons des groupes électrogènes et autres matériels que la mission a eu à utiliser et à déclasser après son usage. Et donc, ce sont des matériels déjà utilisés. C'est pas du matériel neuf, mais c'est des biens usagés.
Comment cela va se passer? Comment doivent s'y prendre les enchérisseurs intéressés pour ces lots-là?
Ok, donc déjà, il est organisé une visite obligatoire. C'est-à-dire que nous donnons l'occasion aux différents enchérisseurs d'arriver sur site pour visualiser les items en question. Et quand ils vont arriver sur site, selon le calendrier qui est publié, et là, ils auront l'occasion de voir le matériel en question. Et là, sur place, il leur sera aussi donné un document qui va leur renseigner sur tout ce qu'ils ont à faire. D'abord, la liste des biens qui sont mis en vente, leur numéro parce que c'est classé par lot. Et puis là, il y a des instructions qu'ils doivent suivre pour qu'ils arrivent à bien faire leur soumission et que leur soumission soit acceptée. Donc, s'ils ne sont pas sur place, même s'ils soumissionnent par une tierce personne, leur offre ne sera pas acceptée pour la simple raison que souvent nous recevons des réclamations. Je croyais, je pensais alors. Alors que si quelqu'un a vu, il est conseillé de ce qu'il veut acheter et il peut faire son offre. Et maintenant, là, sur place, il y aura aussi une session de briefing. Enfin, on va leur maintenant expliquer, bien que c'est écrit, mais parfois les gens ne lisent pas. Alors, on a jugé que cette session de briefing était importante pour permettre aux gens de comprendre, parce que c'est déjà en français, et tous nos soumissionnaires ne sont pas toujours francophones. Alors, une petite explication qui peut résumer tout le journal qui sera écrit dans le document d'appel d'offres pour leur permettre de faire leur soumission. Et là aussi, ils auront l'occasion de poser des questions s'ils n'ont pas compris tout ce qui avait été écrit. C'est comme ça que cela va se passer.
Explique-nous maintenant, Joseph Monsoala, quelles sont les conditions pour ceux des enchérisseurs qui acheteront les véhicules de la MONUSCO si nous savons bien que ces véhicules n'ont jamais payé la douane?
Ok, comme vous le dites, la mission de l'Organisation des Nations Unies en partenariat avec la RDC est exemptée de certaines taxes. Alors donc, du coup, ceux qui auront gagné, parce que ça sera la concurrence, et ceux qui auront gagné de l'eau, ils seront notifiés. Et dans la notification, là, ils verront les lots qu'ils auront gagnés, ainsi que leur prix. Alors, ils doivent d'abord faire le paiement pour la MONUSCO. Et ce même document qui leur seront octroyés, ils iront avec se présenter au guichet de la DGDA. Et là, ils vont remplir toutes leurs formalités douanières. Et quand ils auront payé des taxes et de la MONUSCO, ils vont maintenant nous ramener les preuves. Sur base de ces preuves, nous leur établirons les documents pour leur permettre de prendre possession de biens qu'ils auront achetés. Donc, quand quelqu'un aura gagné son lot et qu'il arrive à la DGDA a déjà la liste de ses biens. Maintenant, il va seulement voir que c'est tel qui a gagné. Il compare le document qu'on a remis à l'enchérisseur gagnant et ceux qu'ils ont, et ils lui font les calculs pour qu'il paye ses formalités. La MONUSCO n'a aucune impulsion, mais seulement il a collaboré avec la DGDA pour savoir qu'il y a des histoires qui sont mises en vente et que s'il voit des gens venir payer leurs taxes, qu'ils acceptent sans problème.
Alors, dites-nous pour terminer, les agents des Nations Unies en général et ceux de la MONUSCO en particulier sont-ils éligible à cette vente aux enchères?
Il y a quelques années passées, cela n'était pas possible. Mais ça vient de commencer où on a autorisé que les agents puissent aussi avoir accès à ce genre de vente. Mais il y a des conditions d'éligibilité. Je crois que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dernièrement une vente exclusivement aux agents. Et cette vente-là n'était pas réservée au grand public. On a d'abord donné seulement la chance aux agents. Mais maintenant qu'on va aussi faire un truc qui est ouvert, les agents peuvent participer, mais il y a des conditions. Par exemple, comme moi, je suis...
Quelles sont ces conditions? J'allais me poser la question.
Comme moi, je suis agent et je participe dans le processus de vente. Je ne peux pas être juge et partie. Donc voilà. Moi, je ne peux pas participer officiellement. Donc un staff, généralement nous qui sommes du service achat, mais impliqués dans la vente, je ne peux pas participer. Mais les autres collègues qui ne sont pas de ce service ou qui ne participent...
Moi, par exemple, je suis à la radio Capi,
ouais,
je peux bien.
Ouais. Okay. Et donc là, maintenant, vous allez participer comme...
N'importe qui.
Oui, donc...
Il n'y a pas de prix préférentiel pour les agents
le grand public. C'est le grand public.
Joseph Monsoala Makambo, procureur officier, merci beaucoup.
Voilà, notre invité répond aux questions de Blaise Shindani. Par ici s'achève ce journal. Au nom de toute l'équipe, Richard Junior Kamunga, Pele Kipela Mondo, Polydor Basunga et grâce à Mzati Masanzi, nous vous disons merci pour votre confiance à la fréquence de la paix.